Des mots pour le dire, une émission présentée par Edonès Banti avec Michel Théron.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le réseau FM+, ce réseau à double tête, sur le 91 MHz si vous êtes sur l'agglomération Montpellier-Rennes, ou bien sur le 103.1 Radio Alliance Plus si vous êtes sur l'agglomération Nîmoise. Et puis au-delà de ces contrées, il n'y a plus de limite, puisque à travers le www.fmplus.org, vous pouvez nous écouter partout où vous êtes. Et encore, il y a toujours une autre possibilité, il suffit de télécharger notre application pour iPhone ou Android, et comme ça vous êtes tranquille et vous pouvez nous entendre quand vous le voulez, où vous le voulez, et même si vous êtes en déplacement, qui sait, au-delà de la sphère terrestre, on peut toujours nous écouter, d'autant plus qu'il s'agira aujourd'hui de débattre toujours avec une voix nommée Jésus, non pas avec Jésus, ni l'évangile selon Thomas, mais débattre et discuter toujours avec Michel Théron. Bonjour Michel.
Bonjour Edouane, bonjour à tous.
Donc, débattre avec vous, du moins, vous nous servez de guide à travers cet évangile selon Thomas, où on découvre de chapitre en chapitre la large dimension de cet évangile qui est très peu connu peut-être des auditeurs. Et nous abordons aujourd'hui le chapitre Agir, avec un point d'interrogation. Mais avant de démarrer notre séance d'aujourd'hui, juste pour rappel que l'émission de la semaine dernière, le texte je crois que maintenant est accessible aux auditeurs.
Voilà, la semaine dernière nous avons parlé des voies de l'unification et j'avais signalé une réflexion que j'avais faite sur justement cette unification en rapport avec les figures de style qui sont fréquentes dans la poésie. J'avais dit que j'avais fait une conférence sur spiritualité et poésie au temple d'Alès, dans le Gard, et le texte de cette conférence ainsi que son enregistrement audio est disponible sur mon blog. Je rappelle l'adresse de mon blog, www.michel-theron.fr. Voilà. Donc, les auditeurs de la semaine dernière qui voudraient approfondir en lisant le texte de cette conférence, qui est assez long d'ailleurs, il est au format PDF, ou en écoutant l'enregistrement, peuvent se rendre sur mon blog. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose. Vous parliez de débat, Edouane, et ce ne sera pas un combat, j'espère.
Hein. Non, c'est débat, justement. Voilà. Et justement, pour, disons, servir de tremplin, comme toujours, deux citations, l'une de Frédéric Hegel, et puis la seconde de Jean-Paul Sartre, puisque la thématique d'aujourd'hui, c'est agir. Friedrich Hegel disait « L'homme n'est rien d'autre que la série de ses actes ». Et puis, enfin, de Jean-Paul Sartre, « Le faire est révélateur de l'être ».
Voilà. Eh bien, ce sont deux citations très intéressantes qui valorisent l'action, manifestement. Alors que autrefois, par exemple pour Platon, l'action n'était pas importante. Alors je vais le dire en anglais, si vous voulez. Pour Platon, par exemple, to do is not to be, c'est-à-dire faire n'est pas être. Pour Sartre, to do is to be. Faire, c'est être. Voyez. Donc l'homme se construit d'après ses actions. Et alors il m'était venu à l'idée de caractériser la modernité où le fun, l'amusement seuls sont valorisés en mettant par exemple dans la bouche de Frank Sinatra to be do, vous voyez, voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est loin à la fois de Platon et de Sartre, voilà. Donc ces deux citations sont très intéressantes et c'est contre elles, contre cet éloge de l'action que se dresse l'évangile selon Thomas. Donc je pars du Logion 98 de cet évangile. Jésus a dit « Le royaume du Père est semblable à un homme voulant tuer un grand personnage. Il dégaina l'épée dans sa maison et transperça le mur afin de savoir si sa main serait sûre. Alors il tua le grand personnage. » Bon. Alors, on pourrait rapprocher de ce Logion le numéro 21. Prenez appui sur vos reins avec une grande force, de peur que les pillards ne trouvent un chemin pour venir vers vous. Ou encore, on pourrait citer le Logion 103, Jésus a dit « Heureux l'homme qui sait en quel point les pillards pénètrent, si bien qu'il se dressera, rassemblera sa force et prendra déjà appui sur ses reins avant qu'ils ne s'introduisent. » Alors on rapproche de cela la parole canonique que l'on trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 11, verset 21. « Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. » Bref, le sens alors serait un appel à veiller et à se prémunir contre toute agression de l'ennemi. Assurément, c'est un sens banal, hein, puisqu'il pourrait être résumé par notre proverbe bien connu, « prudence est mère de sûreté », vous voyez. Et aussi, on y verrait conseiller non seulement la précaution, mais encore l'action, l'acte de se défendre, justement, que la précaution anticipe et qui suit naturellement cette précaution. C'est très actuel, Redouane, aujourd'hui. Vous savez que tout le monde se protège au moyen de digicodes ou bien en montant ses clôtures. Vous voyez, hein, les gens sont des reclus maintenant, hein, face à ces exclus qui sont dans la rue, hein, voilà, pour se protéger contre eux. Ça me frappe, ça, hein. Dans le lotissement où j'habite, eh bien, je m'aperçois que les clôtures montent progressivement. Hein. Initialement, elles étaient édifiées à un niveau assez bas, 40 ou 50 cm, et maintenant, les gens empilent des parpaings les uns sur les autres, on arrive à des murs de 2 mètres ou plus, vous voyez.
Et c'est alors, très... se demande qui c'est qui est enfermé dans ces cas-là.
Ben voilà. Alors, ils ont de belles résidences, mais je dirais qu'ils sont assignés à résidence. Hein, parce que nos amis peuvent, ils ont du mal à en sortir. Ce sont des vraies prisons, si vous voulez. Hein. Alors, je trouve, bon, actuellement, cette société duale qui oppose les exclus de la rue aux reclus derrière leur digicode, je la trouve problématique. Hein. Alors, je ne dis pas qu'il faut, comment dire, ouvrir toute grande les portes de sa maison, encore que, hein, bon, je ne sais pas, hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des peurs, hein, vous êtes d'accord, Redouane, les peurs augmentent de façon très très impressionnante. Alors, bon, là, on est dans une constatation banale, il faut se protéger, justement, contre l'agresseur éventuel. Alors, on peut voir... dans le Logion que j'ai cité en commençant, un sens symbolique. C'est celui que Philippe de Suarez voit dans son commentaire de l'Évangile selon Thomas. Voici ce qu'il dit. « Le grand personnage qu'il s'agit de tuer serait le moi usurpateur, ce petit égo qui se croit grand, hein, mais qui doit à la longue laisser sa place à ce que Jung appelait le soi, hein, c'est-à-dire un élargissement de la vision. » Voici ce que dit Philippe de Suarez. « Le grand personnage, au moins celui qui se croyait tel, doit capituler et finalement mourir sous les coups de celui qu'on a déjà appelé le divin assassin. » Bon, et Philippe de Suarez affirme que ce cheminement, justement, est contraire à l'affirmation de l'individu en tant qu'entité séparée, hein, que cette affirmation vaille pour ici-bas ou pour après la mort, hein. Mais Philippe de Suarez conclut que les rédacteurs évangéliques n'ont pas été inspirés par un tel logion, mais ce n'est pas vrai, puisque cette mort symbolique du petit moi, de l'ego, hein, au bénéfice de plus grand que lui, pourrait être lue dans la parabole très connue de l'Évangile selon Jean, chapitre 12, verset 24. « en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Alors, elle est très connue, cette parole, elle a servi de titre à un livre, je crois, de Gide, hein, « Si le grain ne meurt hein. ». Alors, on peut l'interpréter de deux façons. Si on l'interprète littéralement, à ce moment-là, c'est l'acceptation d'une mort physique volontaire. Et si on réfléchit bien, on pourrait dire que Jésus, alors, aurait recherché le martyr, hein, ce serait un véritable suicide, et il faut qu'il meure, justement, pour sauver les péchés des hommes. Mais je crois qu'une interprétation plus intéressante serait de voir, justement, dans cette mort, la mort du petit égo, hein. celui qui ramène tout à soi. Alors, j'aime bien jouer sur les mots, je parle souvent d'un tout à l'ego, un égocentrique, vous voyez. Et donc, faire mourir le petit ego, c'est s'ouvrir au grand scénario des possibles, hein. Cesser d'être une île isolée pour s'ouvrir vers le grand océan qui entoure cette île. Et ou bien passer du nageur isolé à la vague qui le porte. Ce sont des images, la dernière image, je crois, je la prends à Marguerite Yourcenar. Donc il me semble que, plutôt, si on prêchait sur cette parole, c'est pas mon rôle, mais c'est le vôtre, cette parole déconnue, je pense qu'il ne faudrait pas faire l'éloge de la mort physique, volontaire, du martyr, mais simplement prendre cette parole symboliquement. Mourez à vos propres petits calculs, à tout ce qui vous fait hésiter, vos tergiversations, à tout ce qui vous empêche justement d'avancer dans la vie. Non, Redon, vous auriez pas...
Oui, non, je tout en vous écoutant, je réfléchissais et quelque part je me dis peut-être qu'il n'y a pas si tort que ça d'avoir les deux, peut-être les deux faces de l'interprétation. Je pense en particulier ce qui s'est passé début janvier avec Charlie Hebdo. En fait, c'est quelqu'un qui est mort pour une idée. C'est des hommes qui sont morts pour des idées et ça a porté des fruits.
Oui.
Vu la mobilisation, c'est-à-dire que tout d'un coup, ce peuple amorphe au sein de la République s'est réveillé, une sorte d'électrochoc qui a fait que le peuple français s'est dit, mais enfin, on est en train de porter atteinte à ce qui est fondamental, liberté. C'est le premier mot de la trilogie.
Tout à fait, vous avez raison. Il y a, comme dirait Hegel, une positivité de la négativité, c'est-à-dire, c'est une formulation savante pour dire que un sacrifice peut être fécond et ressouder une collectivité. La différence, c'est que les dessinateurs ou les rédacteurs de Charlie n'étaient pas volontaires pour mourir.
Non.
Ils n'ont pas voulu cette mort.
Mais disons, c'est aussi tenir ferme sur des convictions. Alors on peut être d'accord ou pas d'accord sur le contenu de leur dessin, etc. Mais c'était des hommes qui ont, malgré la peur, ils auraient pu se cacher.
Oui.
c'est-à-dire abandonner ces dessins, abandonner cette provocation. C'est une manière, c'est-à-dire céder à la peur. Ils n'ont pas cédé à la peur, mais ça aboutit aussi à la prise de risque physique.
Absolument. Oui, alors, écoutez, admettons les deux interprétations. Il me semble que dans l'évangile selon Jean, le logion qui suit, le logion qui précède plutôt, Jean 12, 24, c'est Jean 12, 23, montre le désir que Jésus a de mourir. Hein. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Hein. Donc, le sens symbolique est possible si on isole, si le grain de mort, etc., de son contexte. Si on le met dans le contexte, il y a un acheminement volontaire de Jésus vers sa passion. Vous savez qu'il y a deux versions. Hein, ou bien Jésus est livré par Judas, donc va connaître sa mort un peu malgré lui, hein, c'est la version des évangiles synoptiques, hein, Matthieu, Luc et Marc. Bon, ou bien alors il se livre lui-même et il se donne justement à un martyr rédempteur des péchés du genre humain. D'ailleurs la messe catholique, c'est le milieu d'où je viens, je vous l'ai dit bien des fois, dit deux choses, hein, au moment d'être livré et au moment d'entrer volontairement dans sa passion. Hein. Donc, être livré, c'est, comment dire, nolens volens, comme on dit en latin, c'est-à-dire bon gré, mal gré, voilà. Et d'entrer volontairement dans sa passion, ce serait plutôt le Christ joannique. Encore que, on pourrait dire que Judas n'est que l'intermédiaire, justement, qui permet à Jésus ainsi de s'élever, de se glorifier, et dire que Jésus a besoin de la trahison de Judas, vous voyez, hein. C'est la version de Borges dans son texte, trois versions de Judas, dans Fiction. Hein. Jésus a besoin de Judas. Peut-être, finalement, que sans Judas, il n'y aurait pas eu l'arrestation, la passion, la mort de Jésus, sa résurrection, il n'y aurait pas eu de christianisme, vous voyez. Donc, c'est assez complexe et c'est vertigineux, vous voyez. Mais enfin, le vertige ne nous fait pas peur, hein, Redouane.
Non, pour l'instant.
Pour l'instant.
toujours à l'écoute de votre radio préférée, bien entendu, ça va de soi, hein, d'autant plus qu'on vous emmène sur des contrées assez étonnantes avec cet évangile selon Thomas, donc toujours à l'écoute d'une voix nommée Jésus, des mots pour le dire, en compagnie de Michel Théron. Nous abordons donc le chapitre Agir avec un point d'interrogation de livre que vous avez écrit, paru aux éditions Dervy, et nous sommes quittés juste avant la pause sur la question de la glorification de Jésus. Est-ce le martyr ou est-ce la victime ou l'agneau qu'on immole, le sacrifice qu'on donne pour les autres?
Il y a deux choses, et les deux textes, les deux versions existent. Bon, d'une part, on lit par exemple chez Paul, hein, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a livré son fils en rédemption des péchés. Donc dans ce cas-là, le fils est livré, il est sacrifié, un peu, et ça donne un peu le frisson, un peu comme si Isaac avait été sacrifié effectivement par Abraham sur ordre de Dieu. Encore que dans le texte de la Genèse, Genèse 22, eh bien on voit à la fin la substitution du bélier à Isaac. Hein. Bon, mais l'idée selon laquelle le père a livré le fils justement au supplice et à la mort pour acheter les hommes se trouve déjà dans les textes de Paul. Et la deuxième version alors serait que Jésus s'est livré lui-même, vous voyez, hein. Dans l'épître aux Hébreux par exemple, il est à la fois le sacrificateur et la victime, vous voyez, hein. Donc c'est très complexe, c'est pour ça que je parlais de vertige tout à l'heure, hein. Tout dépend du statut que l'on donne à Jésus, hein. Tout dépend si l'on appartient au courant de la christologie basse, celle, comme on dit, des canoniques, ou de la christologie haute, celle de Jean. La christologie haute, c'est celle où Jésus a déjà une stature divine, puisque quand on vient l'arrêter dans Jean, hein, la troupe dit « Qui cherchez-vous ?» Jésus répond « Ego eimi », c'est-à-dire « Je suis ». Je le suis. Alors, on traduit la plupart du temps, c'est moi. Mais, en fait, je suis, c'est le nom de Dieu, si vous voulez, hein. Bon. C'est ce qui explique qu'alors, tous les assistants tombent à terre, à la renverse. Donc, il s'agit d'une théophanie, vous voyez. Donc, c'est intraduisible, ça, hein. Si vous dites, c'est moi, Jésus est petit, hein, bon, comme un homme. Et si vous dites, je suis, à ce moment-là, bon. Pareillement pour l'élévation de la croix, hein. La Vulgate dit, cum ex salta veritis, lorsque vous m'aurez élevé sur la croix, hein, donc c'est effectivement pas un supplice infamant, mais c'est une glorification, comme le dit l'évangile selon Jean. D'ailleurs, il existe dans notre calendrier, à base catholique, bien sûr, une fête de l'exaltation de la croix. Voilà, alors revenons à notre problématique de l'agir. Vous avez raison de dire, Redouane, qu'il y a un point d'interrogation. C'est très important, ce point d'interrogation, dans ma tête de chapitre. Agir, point d'interrogation. Que dit, justement, réellement l'évangile selon Thomas? Est-ce qu'il faut agir, effectivement, pour repousser l'agresseur? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas un sens plus caché? Je vais creuser ce sens plus caché. Il me semble que dans l'évangile selon Thomas, l'essentiel, c'est la préparation ou l'entraînement au combat et non pas le combat lui-même. Et le mot essentiel, c'est le mot savoir, hein, puisque je répète, il dégaina l'épée dans sa maison et transperça le mur afin de savoir si sa main serait sûre, vous voyez. Alors il tua le grand personnage, Logion 98 que j'ai cité. Et on le trouve aussi dans le fameux Logion 103 que j'ai cité, hein. Heureux l'homme qui sait en quel point les pillards pénètrent, hein. Alors il se dressera, etc. Bon, donc savoir renvoie à la gnosis en grec, c'est-à-dire à la gnose, hein, à la connaissance, hein. Et si on crute bien la lettre de ce type de texte, on voit que l'acte même de combattre n'est pas évoqué, hein. Et la seule chose qui compte, c'est de savoir combattre, savoir le faire. Si, après que l'on se soit entraîné, on peut vaincre, est-ce qu'on ne pourrait pas dire alors qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre et de se battre réellement, vous voyez? Alors cela jetterait une singulière lumière sur le dernier verset de notre Logion. Alors il tua le grand personnage. Donc le « alors » ne signifierait pas, comme on peut le penser à première lecture, « ensuite ». ou bien à partir de là, mais au contraire est seulement ainsi et de cette façon. Le sens ne serait pas chronologique, mais comparatif. Pouvoir tuer le grand personnage dispenserait de le faire réellement. Et savoir, c'est déjà pouvoir, hein, et pouvoir équivaut à faire. Je relis ce logion, hein. Il dégaina l'épée dans sa maison et transperça le mur afin de savoir si sa main serait sûre. Alors il tua le grand personnage. La plupart du temps, on comprend, après cela, il l'avait su, et alors il l'a tué effectivement. Mais on peut comprendre le alors de cette façon, hein. Ainsi il le tua, donc il n'a pas besoin de le tuer réellement, effectivement. Ça c'est très subtil et c'est très intéressant à mon avis. Et cela correspond tout à fait à l'enseignement dispensé par ailleurs, qui invite à acquérir d'abord en quelque domaine que ce soit, les choses, la puissance, tout ce que l'on veut, puis à renoncer à ce que l'on a acquis. Ce logion, voyez le logion 81. Jésus a dit, celui qui est devenu riche, qu'il devienne roi, et celui qui a la puissance, qu'il renonce. La première étape, c'est de s'enrichir. D'accord. Après, on peut acquérir le pouvoir. On devient roi. Mais alors, lorsqu'on a les deux, hein, richesse et puis puissance, à ce moment-là, il faut renoncer. Et cette idée au renoncement n'est absolument pas, comment dire, une catastrophe. C'est au contraire un renoncement volontaire, un dépouillement qui est recherché, hein, et qui est le signe de la vraie grandeur. Alors, vous voyez, Redouane, quand on sait faire quelque chose, à quoi bon la faire, effectivement? On s'est entraîné, on a acquis la capacité de faire les choses, et cela suffit. Alors ça nous déstabilise. Pourquoi? Parce que nous sommes une civilisation de l'action, hein, et les deux citations de Hegel et de Sartre que vous avez citées en commençant sont très significatives de l'âme même de notre Occident. L'Occident se définit par un interventionnisme constant, un méliorisme, c'est-à-dire le désir d'améliorer les choses, vous voyez. Je pourrais parler là de prométhéisme, par référence à Prométhée, Prométhée qui me semble le prototype même de l'Occident. Prométhée est un titan révolté contre les dieux, hein, et pour cette raison, il prend le parti des hommes, donc il est littéralement un philanthrope, c'est-à-dire quelqu'un qui aime les hommes, hein. Dans la pièce grecque, eh bien, il dit, à proprement parler, je hais tous les dieux, vous voyez, c'est un révolté contre le pouvoir des dieux. Et alors, l'Occident a oublié le châtiment de Prométhée, hein. Il a oublié que la prudence est nécessaire en matière d'action. Il a oublié ce que les Grecs pensaient, que l'hybris, l'orgueil démesuré de l'homme, devait être châtié par la némésis, c'est-à-dire par la justice immanente des dieux. Il y a un proverbe latin qui le dit aussi, hein, corruptio optimi pessima, c'est-à-dire la pire corruption est celle du meilleur. Donc il y a un danger dans l'action qui est de la pousser trop loin. Et alors Prométhée, comme tout le monde le sait, a été enchaîné sur le rocher du Caucase, je crois, et un vautour venait lui dévorer le foie, ce foie toujours renaissait, si vous voulez. C'est un supplice analogue à celui de Tantale ou de Sisyphe, un supplice sans fin, si vous voulez. Hein. Bon, mais l'Occident a oublié la fin, le châtiment de Prométhée. Et d'ailleurs, il est intéressant que, selon certaines versions mythologiques, Prométhée a été délivré de son supplice par Héraclès, c'est-à-dire Hercule, si vous voulez, c'est-à-dire la technique succède à la science. Prométhée, c'est la science, parce qu'il apporte aux hommes le feu de la connaissance, hein. Bon, et Héraclès, c'est la technique, vous voyez, les travaux d'Héraclès, les travaux d'Hercule, hein. Alors nous faisons confiance, un, à la science, et deux, à la technique. Il faut dire technique et pas technologie, parce que technologie, c'est un mot anglais. Hein. Donc, la technologie existe, mais c'est la science des techniques, si vous voulez. Hein. Donc, parlons plutôt de technique. Alors, la deuxième racine de l'Occident, outre Prométhée, c'est alors Faust. Faust, le Faust de Goethe, refait par exemple l'évangile selon Jean, et dans le prologue de Jean, il est dit, au début était la parole, hein, en arché, en hologos. Et Faust le refait en disant, au début était l'action. Das Tun, vous voyez. Hein. Donc, il y a en Occident ce que Spengler, dans le déclin de l'Occident, appelle l'esprit faustien, c'est-à-dire l'esprit d'action. Hein. C'est la deuxième, si vous voulez, racine de notre culture. Prométhée d'un côté, Faust de l'autre. D'ailleurs, je ne sais pas, Redon, si vous savez que le roman de Mary Shelley, qui s'appelle Frankenstein, a comme sous-titre Le Prométhée moderne. Alors faites bien attention, Frankenstein, ce n'est pas le nom du monstre, hein, c'est le nom du docteur qui l'a créé, ce monstre. Hein, il l'a créé. Et alors, on brise le tabou, seul Dieu peut créer la vie. Hein, bon, peut insuffler la vie à de la matière inerte. Et là, Frankenstein, justement, comme Prométhée, a voulu défier les dieux. Alors c'est vrai que le monstre s'est retourné contre son créateur, hein, il y a là un véritable châtiment. Nous oublions cette leçon, nous valorisons toujours l'action, l'action, l'action à tout prix. Nous sommes, tenez, pour prendre notre exemple, un exemple simple, dans la fable de La Fontaine, le chêne et le roseau. Tout le monde la connaît, cette fable. Eh bien, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un dialogue entre le chêne, qui est un très gros arbre, hein, et le roseau, qui est menu, très menu, et il plie au premier coup de vent. Bon, alors le chêne, au début, dit, vous, roseau, le chêne, un jour, dit au roseau, vous avez bien sujet d'accuser la nature, un roitelet pour vous est un pesant fardeau, le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. C'est vrai que le petit roitelet qui se pose sur le roseau le fait plier. Bon, alors le chêne au début, il a une très bonne intention, il dit je peux vous abriter sous mon grand feuillage. Alors le roseau ne dit rien, mais attendons la fin, je crois, quelque chose comme ça. Alors après, se lève un grand vent, hein, le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts, vous voyez. Donc le roseau plie, mais ne rompt pas, hein, mais le chêne, qui est si grand, la double hyperbole, périphrase hyperbolique de la fin, hein, celui dont la tête t'a semblé toucher le ciel et les pieds, le centre de la terre, lui, il est déraciné. Alors, nous avons du mal à nous plaignons le chêne et le roseau, ma foi, nous avons du mal à penser que plier est plus efficace que lutter. Hein. Et nous voyons dans le chêne l'image du stoïcien, par exemple, qui lutte, qui maintient justement sa force. Mais peut-être, et là, tout le L'Orient nous le dit, hein, donc peut-être que il y a parfois sagesse à plier. Alors, nous pensons que c'est de la lâcheté que de plier, vous voyez, parce que nous voulons combattre. Hein. Mais est-ce qu'on peut combattre tout le temps, vous voyez? Cette question est une vaste question.